dans la revue de presse d'Europe 1. Bonjour, après le journal. Europe 1, bonjour et bon réveil. Voici les infos. Il est 6h sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Nous irons d'abord au sud de Lyon. La police déployée à Givors cette nuit pour tenter de maintenir le calme après un déchaînement de violence dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs véhicules incendiés et des affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre. Reportage dans un instant. L'actualité, c'est aussi la garde à vue prolongée d'une mère et de son fils de 15 ans d'origine afghane à Châteauroux dans l'Indre, soupçonné d'être lié à une attaque au couteau mortel sur un adolescent samedi soir. Nadine Morano, Brice Hortefeux, députés européens sortants, seront-ils sur la liste des Républicains aux côtés de François-Xavier Bellamy? Le parti se déchire, réponse attendue demain. Le journal de 6 heures, Nina Pavon. Bonjour Nina.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Direction Givors dans le Rhône ce matin sur Europe 1. La police nationale a été déployée cette nuit pour y assurer le calme après des affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre, ainsi que l'incendie de plusieurs véhicules appartenant à la police municipale et à la mairie. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. La ville est en proie à des violences depuis plusieurs semaines déjà, dénoncées par les forces de l'ordre, mais aussi par les habitants. Noémie Loisel.
Dans la cour intérieure de la mairie, deux voitures de la police municipale réduites en cendres et la façade de l'un des bâtiments noircie par la fumée. Des carcasses laissées sur place depuis samedi quand une trentaine de jeunes cagoulés auraient mis le feu à ce parking fermé. Des incidents qui n'étonnent pas les habitants habitués aux dégradations.
Ras-le-bol, oui. Je travaille, mes camions ils sont tout le temps esquintés, moi. Tagués, crevés les pneus à cause de mes camions. J'ai trouvé aucune assurance.
Ces violences seraient des représailles. Quelques heures plus tôt, cinq mineurs âgés de 12 à 17 ans suspectés d'avoir agressé un autre mineur âgé de 14 ans a été interpellé. Alain Barbery, c'est le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale du Rhône.
L'enquête démontrera ce qui s'est passé et pourquoi du comment, le mobile. Givors, c'est pas la première fois que nos collègues font l'objet des tirs de mortier, de guet-apens. Ça arrive malheureusement très souvent.
Face à cette montée de violence chez les jeunes, le syndicat Alliance Police Nationale demande des moyens supplémentaires, plus d'effectifs sur le terrain, des enquêteurs, mais aussi une réponse pénale à la hauteur des faits reprochés. Givors, Noémie Loisel, Europe 1.
À Châteauroux, une enquête est ouverte pour homicide après la mort d'un adolescent de 15 ans suite à une agression au couteau. Le parquet évoque, je cite, une bagarre à l'arme blanche samedi soir. L'agresseur présumé, 15 ans lui aussi, d'origine afghane, est connu des services de police. Il est toujours en garde à vue avec sa mère, soupçonnée d'être impliquée dans l'attaque. L'actualité du week-end, c'est aussi ce nouvel homicide à Marseille. Samedi soir, un jeune homme de 19 ans a été tué par balle, quartier de la Belle de Mai, en plein centre-ville. Très vraisemblablement le troisième narcomicide de l'année selon le parquet de Marseille.
Le déficit public s'invite au menu des débats de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Même si l'agence de notation Moody's a maintenu la note de la dette française, le débat sur les finances publiques s'annonce tendu. Barthélémy Philippe, le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave, va détailler le plan de bataille pour réduire le déficit public au plus vite, avec une ambition osée, revenir sous les 3% d'ici à 2027.
Oui, après avoir gelé 10 milliards d'euros de crédit ministériel en février, Bercy doit dégager 10 milliards de plus d'ici la fin de l'année pour tenir sa trajectoire budgétaire. Conséquence, les ministères vont à nouveau être mis à contribution, explique Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la Commission des Finances.
Il a été demandé à l'ensemble des ministères de geler une partie de leurs dépenses.
Avec ce nouveau coup de rabot, Bercy compte déjà récolter 5 milliards d'euros, mais cette fois, les collectivités territoriales doivent aussi contribuer à l'effort.
Vous avez une demande qui est faite aux collectivités territoriales de réduire la croissance de leurs dépenses à hauteur de 2,5 milliards. Leurs dépenses, c'est à peu près 300 milliards par an.
Enfin, la dernière tranche d'économie de 2,5 milliards d'euros doit être identifiée d'ici fin juin par la mission parlementaire sur la taxation des rentes. La piste la plus chaude, c'est le durcissement de la taxe sur les super-profits des énergéticiens. Elle a rapporté seulement 300 millions d'euros en 2023, alors que l'État en attendait 3 milliards.
Barthélémy Philippe, le gouvernement va porter plainte pour injure publique contre Jean-Luc Mélenchon. Annonce hier de la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, le leader de la France insoumise, qui avait fait le parallèle entre le président de l'Université de Lille et le nazi Adolf Eichmann après l'annulation de sa conférence il y a une dizaine de jours. À Mayotte, la situation sanitaire se dégrade à vitesse grand V. Les cas de choléra ont doublé depuis la mi-mars et l'importation de cas venus des Comores. Désormais, 26 personnes sont infectées par cette maladie, des cas endogène. Une deuxième unité spécialisée vient d'être ouverte dans le département pour tenter de contenir et diminuer le risque de propagation.
L'heure de vérité approche. Rendez-vous demain pour les Républicains. La commission nationale d'investiture du parti LR se réunit pour finaliser sa liste officielle pour les élections européennes.
On connaît déjà les trois premiers noms. François-Xavier Bellamy, Céline Imar et Christophe Gomard. Reste à déterminer l'équipe en entier avec une difficulté principale pour Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy. Trouver l'équilibre entre la reconduite des sortants et le besoin de renouvellement, Alexandre Chauveau.
Premier casse-tête pour LR, trancher le cas Nadine Morano. Ancienne ministre, très identifiée des Français par son discours sur l'immigration et la sécurité, elle est vue par certains comme un atout face à Jordan Bardella et Marion Maréchal, quand d'autres la jugent trop caricaturale. Plusieurs cadres craignent également son pouvoir de nuisance en cas d'absence sur la liste. Celle-ci devra être représentative géographiquement de la France. C'est une volonté d'Éric Ciotti et paritaire. Elle pourrait être complétée chez les femmes par les eurodéputées sortantes Nathalie Collin-Osterlé et Anne Sander. Chez les hommes, la présence éventuelle de Brice Hortefeux divise fortement en interne. Sarkozyste historique, proche de Laurent Wauquiez, il est pour beaucoup le symbole d'une époque révolue à droite. Pour cette place, le président des Jeunes Républicains Guilhem Carayon, l'eurodéputé sortant Geoffroy Didier ou le proche de Gérard Larcher Patrick Drey sont en lice. L'ordre sera déterminant pour connaître les chances de chaque candidat d'être élu. Si les sondages en restaient là, LR pourrait envoyer entre 7 et 8 députés au Parlement européen.
Et les élections européennes également à la une en Italie. La première ministre en personne, Giorgia Meloni, est désormais la tête de liste de son parti, Fratelli d'Italia. Elle espère ainsi confirmer dans les urnes son succès dans les sondage.
Il faut déplacer l'axe des choix européens vers la droite pour rapprocher l'Europe de ses peuples. C'est une bataille décisive, un véritable carrefour qui ne consent pas de faire un mauvais choix. Chacun doit être prêt à faire sa part et moi, comme toujours, je compte faire la mienne.
Giorgia Meloni, la première ministre italienne.
6h07 sur Europe 1, l'actualité. Nina, c'est aussi ce 15e album des Pet Shop Boys.
Et oui, annoncé depuis plus d'un an, il vient de sortir, il s'appelle Nonetheless et nous offre 10 titres inédits des Pet Shop Boys, les stars des années 80 qui, non, vous l'entendez, dans ce titre Loneliness, pas pris une ride en restant très moderne. Et puis on prend aussi le temps ce matin sur Europe 1 pour envoyer nos meilleurs vœux de rétablissement à Véronique Sanson, hospitalisée pour une pneumonie. La chanteuse, auteure et interprète de 75 ans a dû reporter son concert prévu hier au Zénith de Nantes. Il se tiendra le 30 mai, selon son attaché de presse qui s'est voulu très rassurant sur son état de santé.
Merci Nina Pavant et bon réveil à tous à 6h07 sur Europe 1. N'oubliez pas votre autre rendez-vous d'actualité ce soir de 19h à 21h, Europe 1 Soir. Nouvelle formule à partir d'aujourd'hui, présentée par Pierre de Villeneuve. Ce sont 2 heures d'actualité pour débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1. Europe 1 Soir, 19h-21h donc avec Pierre de Villeneuve à partir de ce soir.
Dans un instant, le pressing, les articles à lire dans les journaux du matin avec notamment les JO de Paris et les pays qui ne fixent plus d'objectifs de médailles. Voilà, ne pas ajouter de la pression à la pression.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1.
Tout à l'heure, à 6h50, retrouvez la revue de presse internationale avec Valtus, leader européen du management de transition. Valtus, c'est déjà plus de 3500 missions en management de transition réalisées dans 50 pays.
On sort ce soir? On pourrait aller au ciné, ou aller voir une expo, ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes, là?
Hein, pardon, tu disais? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable!
Capital. Jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, hey, tu me le prêtes?
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
À tous ceux qui appellent un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20 euros jusqu'à 30 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Europe 1, bonjour. 5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Bienvenue à tous, vous êtes bien sur Europe 1 ce lundi matin et c'est l'heure de votre pressing, chers auditeurs, à 6h10, la revue de presse d'Europe 1, bonjour, avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Qu'avez-vous lu dans les journaux?
Je vais vous parler des Jeux Olympiques en croisant deux articles trouvés dans la presse ce matin. Quand la France se rêve dans le top 5 du classement des médailles, d'autres pays, eux, ne se fixent aucun objectif. Vous allez comprendre.
Omblin.
Des villages envahis de voitures pendant les longs week-ends et les vacances, la faute au GPS.
Un anniversaire également dans la presse. Le Larousse va fêter ses 120 ans. Alors chaque année, vous savez qu'il accueille une petite cohorte de mots nouveaux. Eh bien, je vais vous en dévoiler quelques-uns. Dans un instant, Dimitri, je m'adresse d'abord à vous. Objectif Jeux Olympiques, je dirais même objectif médaille.
Exactement, puisque j'ai repéré dans la presse deux articles sur cette thématique ce matin. Le premier dans le magazine Le Point qui se pose la question suivante. Dans l'histoire, quels sont les sports olympiques où la France a remporté le plus de médailles? Tiens, vous avez une idée, Omblin Alexandre?
L'escrime.
Ah bah oui, très bonne réponse.
Bravo.
Escrime, historiquement, c'est là où la France brille le plus, avec plus de 123 breloques remportées dans cette discipline. Arrive ensuite le cyclisme, puis le judo. Trois sports, bah, où bien évidemment, on mise beaucoup pour ces JO 2024 à la maison, comme l'écrit le magazine, pour réussir à terminer dans le fameux top 5 du classement des médailles.
Ouais, donc top 5, c'est l'objectif affiché par le président de la République, Emmanuel Macron.
Oui, comme le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas, la délégation française a un objectif de médaille. Ce qui n'est pas vraiment commun, ce n'est plus commun, comme il faut le dire. C'est ce que je découvre ce matin en lisant cette fois le journal Ouest France. En réalité, énormément de pays ne fixent plus d'objectifs de médaille.
D'accord.
La raison...
On prend moins de risques.
On prend moins
les
de
risques. Les gens ne s'avancent pas. Ouais.
Mais il y a une vraie raison. C'est pour préserver la santé mentale des athlètes. Oui, depuis les derniers Jeux en 2021, où on a vu énormément de sportifs en vraie détresse psychologique, beaucoup de pays, en fait, ont décidé de se soucier un petit peu plus de leurs champions. En tout cas,
ne pas rajouter la pression à la pression, en fait.
C'est exactement ça. En leur enlevant bien ce poids d'obligation de médaille. C'est le cas du Japon, de l'Australie, par exemple. Cet objectif, bien voilà, il est devenu quasiment vieux jeu, sans mauvais jeu de mots. Désormais, soutenir la santé mentale des athlètes paraît aussi important que de célébrer des victoires. Et ça peut se comprendre quand on sait que plus de 33% des sportifs de haut niveau présentent des signes d'anxiété et ou de dépression.
En fait, ils ont déjà la pression pour leur propre carrière professionnelle,
c'est ça,
leur propre performance.
Déjà,
si en plus on leur rajoute la pression nationale, la pression du pays derrière.
Là, d'ailleurs, l'objectif de médaille de la France, là...
Bah c'est top 5.
Top 5, d'être dans
top 5. Non mais ça, on n'a pas la fourchette top 5, quel que soit le nombre de médailles.
Oui, en fait, c'est ça, quel que soit le nombre de médailles.
C'est d'être dans le top 5.
Il faut être dans le top 5.
Ce qui est plutôt, on est le pays d'accueil, bon, ça s'entend.
Ça devrait le faire,
ça
s'entend. En mettant tous les bons ingrédients.
Voilà, bon, on l'espère.
On l'espère, oui.
On verra. Surtout, on met pas de pression.
On met pas de pression.
Alors, je vous le disais, dans la presse ce matin, il y a aussi cet anniversaire, fêté anniversaire très noble, qui pointe son nez dans la presse. Le Figaro nous rappelle que le Larousse, vous savez, le célèbre dictionnaire, va fêter ses 120 ans tout de même.
Alors, 120,
vous imaginez qu'il en a vu passer des mots.
Hein.
en 120 ans d'existence, on sait que chaque nouvelle édition s'enrichit de nouveaux termes. Hein. Bah, notre langage, c'est quoi? C'est notre histoire commune à tous. Oui. Ça veut dire que le dictionnaire, quand on l'a dans les mains, on a aussi dans les mains un livre d'histoire. En tout cas, avec chaque nouvelle édition, c'est le reflet de notre époque, en fait.
On a déjà les nouveaux mots qui vont entrer au Larousse, là?
Les nouveaux mots, oui, dans le Larousse 2025. Ne me demandez pas pourquoi on est en 2024, mais le
c'est
Larousse...
Chaque année, c'est comme ça.
Le Larousse 2025...
C'est comme la mode.
Vous pouvez d'ailleurs le précommander, puisqu'il sort le 22 mai. Alors, quelques mots, tiens, je vais vous en donner. Cyberattaque.
D'accord.
Oui, forcément.
Nouvelle, mais on peut se dire, tiens, cyberattaque n'était pas encore au dictionnaire.
C'est vrai que c'était pas dans le dictionnaire.
Mais oui, il arrive, en tout cas dans le Larousse. Bah oui, on en parle davantage
avec
depuis la guerre en Ukraine, avec les JO qui approchent et les risques associés, évidemment. Méga bassine.
D'accord.
Méga-bassine aussi.
Ça vous parle?
Oui, bien sûr.
Sainte-Soline, bon, par exemple.
La sécheresse qui revient, voilà, la polémique à Sainte-Soline. Les stockages d'eau pour les besoins agricoles. Un ou une trottinettiste.
Trottinettiste.
C'est drôle. Je vais vous expliquer.
Bah, je vois le concept, mais bon. En tout cas, jamais entendu.
Ça signe le fait que l'usage de la trottinette se répand, se généralise. Voilà, donc on a le reflet dans le Larousse. La fast fashion.
Oui, ça on en parle aussi.
Le Larousse accueille aussi des anglicismes. On pourrait dire la mode jetable. Tiens, un autre encore d'anglicisme, skatepark.
Celui-ci ne figurait pas.
Ça m'étonne, ça.
Non.
Dans le Larousse.
Le Larousse fait un petit peu le travail des académiciens. Il recommande à la place planchodrome.
Planchodrome, ouais. Bon.
Pas sûr que les jeunes se disent tiens, tu viens, on va planchodrome tout à l'heure.
On va lui jeter des cailloux à celui qui dit ça.
Tu m'étonnes. Bon, mais qu'est-ce qui fait qu'un nouveau mot entre dans le dictionnaire plutôt qu'un autre?
Vous avez compris, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Alors, évidemment, le Figaro a posé cette question, Dimitri, à la directrice des dictionnaires Larousse. Ça se fait pas comme ça. Il y a toute une équipe d'experts qui travaille toute l'année, qui regarde ce qui se passe dans notre vocabulaire. Il y a 5000 mots qui sont comme ça passés au scanner, chaque année. Pour chacun d'eux, on regarde quoi ? La fréquence d'usage, premier critère. Autre critère, est-ce qu'il est partagé par tous ? Quand je dis par tous, ça veut dire par toutes les générations et par le grand public. In fine, sélection impitoyable, vous avez 5000 mots qui sont repérés, sous-posés chaque année, 150 finalement qui font leur entrée dans la nouvelle édition du dictionnaire.
Sélection, quand même.
J'ai envie de dire 150, c'est déjà
c'est
pas mal.
Mais c'est vrai que c'est
150
pas mal.
Par an, 150 nouveaux mots à apprendre. Cyberattaque, skatepark, ça va aller. Je pense qu'on va aller
voir
ça
déjà. Vous disiez planchodrome.
Planchodrome. Ombline.
Est-ce que, bon, comme moi, vous ne savez plus ou presque vous déplacer en voiture sans utiliser votre GPS, que ce soit pour les petits ou pour les grands? Grand trajet.
C'est mon cas, oui.
C'est terrible, je ne sais pas me repérer sans ce GPS, sans cet écran dans la voiture, je ne sais plus lire le nom des rues. C'est
vous n'êtes pas la seule, les chauffeurs de taxi aussi.
Connaissez-vous alors l'effet Waze ? C'est une expression inventée par les Américains et expliquée sur lemonde.fr. L'effet Waze, c'est de voir des petites villes situées aux abords des grands axes routiers envahies par des hordes d'automobilistes, de poids lourds friands d'itinéraires bis à la recherche d'un trajet plus court. C'est le cas par exemple du village de Saint-Montant en Ardèche, cité médiévale. Médiéval de 180 habitants, écrit Le Monde. Les beaux jours arrivent, les longs week-ends de mai, les grandes vacances approchent. Saint-Montant, à la sortie de l'autoroute A7, peut voir passer jusqu'à 1000 voitures
jour. Oui, ça fait beaucoup.
Et sur des chaussées qui ne sont pas
200
adaptées.
200 habitants.
Exactement.
Cité médiévale, village médiéval, c'est
plus de monde sur la route que dans les maisons.
Finalement. Oui, surtout quand il fait beau. Christophe Maton explique, des panneaux indiquent pourtant d'autres itinéraires, mais les gens se laissent guider aveuglément par leur GPS et donc passent par le village.
Un chemin qu'on n'aurait jamais trouvé sinon.
Mais bien sûr que non. Et on ne prend plus la peine de lever le nez de son appli. Dans un petit village dans le Nord, qu'enfin, en Carambeau, on a compté jusqu'à 14 000 véhicules par jour.
Des automobilistes
voulant échapper à l'autoroute qui relie Lille à Paris.
Est-ce qu'il existe une solution pour contrer cet effet Waze ?
Alors oui, et il faut se montrer astucieux. Cette appli GPS repose sur les informations envoyées par les automobilistes. Mm-hmm. Vous savez, la carte évolue en fonction
du trafic
et en temps réel. À Berlin, un habitant a promené 99 smartphones dans une rue. Donc le tracé de l'application est passé au rouge. En fait, il a simulé un embouteillage et les automobilistes ont été redirigés. Voilà.
Bon, sauf qu'il faut avoir du temps. Pour aller promener une centaine de téléphones, il n'y a pas plus simple quand même.
Oui, il y a plus simple. Dans notre village du Nord, le maire a installé un feu tricolore, une zone 30 à l'entrée. Et à la sortie de la commune, il a observé quand même une baisse de 2000 voitures par jour. Bon, c'est pas assez, mais c'est déjà ça. 17 millions de personnes utilisent Waze en France. Imaginez, on n'a pas fini d'en parler de cet effet Waze. C'est un article du Monde.fr.
Merci Ombline, merci Dimitri Vernet.
À demain.
À demain Dimitri pour une nouvelle revue de presse d'Europe 1. Bonjour. Dans un instant, la partition de la chanteuse Angoun.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h,
Alexandre Lemaire, Ombline Roche.
Mais d'abord, sur Europe 1, le journal permanent, à 6h18, Nina Pavan.
Châteauroux toujours sous le choc ce matin, après la mort samedi soir d'un adolescent de 15 ans, poignardé par un jeune du même âge, connu des services de police. D'origine afghane, il est toujours en garde à vue ce matin, avec sa mère, soupçonnée d'être impliquée dans l'attaque. À 7, la mairie porte plainte après la découverte samedi de tags nazis sur le monument en hommage aux résistants et victimes de la déportation. Le PSG déjà sacré champion de France après la défaite de Monaco 3-2 hier soir face à Lyon lors de la 31e journée de compétition. Les Parisiens qui ont désormais les yeux entièrement rivés sur la Ligue des Champions, demi-finale aller contre Dortmund mercredi soir.
Merci Nina Pavan. Les infos 6h30 dans une dizaine de minutes sur Europe 1.
Europe 1.
D'abord à 6h19, Omblin Roche, c'est l'heure de votre partition. Alors elle était une enfant star dans son pays natal. La chanteuse indonésienne Anggun a traversé les frontières pour finalement faire résonner sa voix dans le monde entier.
Oui, jusqu'à retrouver l'une de ses chansons classée au Texas sur une radio afro-américaine entre deux superstars, Luther Vandross et Whitney Houston. Très belle performance. Et même si la chance lui a souri, Anggun a dû prendre des risques et faire preuve de persévérance pour atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés.
Anggun est donc bien indonésienne de naissance, oui. Elle est née à Jakarta, c'était un 29 avril, comme aujourd'hui, oui. En 1974.
Voilà, dans une famille privilégiée, hein. Elle est la fille d'une princesse indonésienne et d'un père poète, chanteur, producteur. À la maison, on parle musique, politique, ouverture sur le monde. Anggun n'a que 7 ans quand elle enregistre un disque pour enfants, 12 lorsqu'elle publie son premier album rock. Immense star en Asie du Sud-Est, il arrive à l'adolescente de se produire dans des stades de 80 000 places.
Ses ambitions, elles sont encore plus grandes. Elle rêve de conquête, Anggun, elle rêve d'Occident.
Absolument, lors d'une tournée à Bornéo, elle rencontre un ingénieur français, l'épouse et fait ses bagages, direction l'Europe.
C'est donc pour elle un changement de décor, un changement de vie, hein, l'Europe. Où est-ce qu'elle va s'installer, à Paris ?
Alors pas dans un premier temps. En 1994, Anggun arrive à Londres, se lance dans des premiers projets qui n'aboutissent pas. Elle tente sa chance alors en France et tout va s'accélérer grâce à sa rencontre avec Florent Pagny.
Et il se rencontre comment justement ?
Alors l'histoire, mon cher, n'est pas banale. Ah. Anggun ne se lasse pas de la raconter en interview d'ailleurs. Florent, c'est une histoire particulière, dit-elle. C'est grâce à l'oncle de sa voisine. Il connaît un électricien qui un jour a dépanné Florent Pagny. Vous me suivez ? Reconnaissant vers l'électricien qui lui a rendu service, Florent Pagny lui donne sa carte en lui disant « Si jamais un jour tu as besoin de moi, appelle. »
Ah, c'est drôle.
Voilà, l'électricien l'a donc appelé pour lui faire rencontrer Anggun. Elle s'est présentée un jour à son bureau, les bras chargés de cassettes VHS.
Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. C'est le destin.
Bon, là, vous nous laissez imaginer la suite, hein. Florent Pagny sous le charme d'Anggun.
Bien sûr, impressionné par ce qu'il voit et surtout par ce qu'il entend, Florent Pagny adresse Anggun à l'un de ses amis, le musicien et producteur Eric Benzi. Eric Benzi, pour rappel, partenaire de jeu privilégié de Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday et Céline Dion. Avec l'aide de l'auteur et compositeur Jacques Vénéruzo, il écrit et produit le premier album d'Anggun, Au nom de la lune, en 1997.
C'est le seul album en français qu'elle va publier ?
Alors pas seulement, cet album est publié dans plusieurs langues. Rusé, Anggun enregistre également une version anglaise pour le marché américain et quelques titres en indonésien afin de ne pas se faire oublier dans son pays d'origine. Le disque sort dans 33 pays. Sur Europe 1, voici son plus grand succès, La neige au Sahara, qui va rester 24 semaines classée dans le top 50.
Perdu dans le désert.
chante la neige au Sahara dans la partition sur Europe 1. Bon anniversaire à la chanteuse indonésienne.
Mais oui, bon anniversaire Angoun.
Elle fête ses 50 ans aujourd'hui.
50 ans aujourd'hui, et comme vous le dites...
Elle les fait pas.
Elle les fait pas. Merci Ombline Roche, excellent début de semaine à tous avec Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez ce lundi matin.
Merci de choisir Europe 1. Bonjour, 5h-7h.
Dans la prochaine demi-heure, Ombline Roche.
La revue de presse internationale, Alexandre, on va retrouver les correspondants d'Europe 1.
Oui, nous irons notamment au Brésil qui révise sa constitution pour criminaliser la possession et le transport de drogue. À 7h moins le quart, on va retrouver Jean Z, les initiatives positives.
Oui, il nous parlera de disques vinyle écolo, un bio-vinyle fabriqué à partir de PVC d'origine biologique. Dans 10 minutes, votre interview écho, Alexandre.
Alors, c'était ce dimanche la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Nous sommes très en retard sur nos voisins européens en France. Tous les jours, en moyenne, 2 personnes perdent la vie dans un accident professionnel. Le bâtiment en première ligne. Rendez-vous après le journal de 6h30 avec Nicolas Godet, directeur général de Point P. Il lance aujourd'hui une campagne pour sensibiliser les artisans justement à la sécurité au travail. On en parle à 7h20 sur Europe 1. Le temps pour ce vendredi, pour ce lundi matin. Oh là là.
Oui, bon, lundi, alors,
soit je vais trop vite ou pas assez. Hein.
Bah quand le lundi, on se croit vendredi, voilà. c'est pas bon signe pour le reste de la semaine.
Nous sommes lundi 29 avril à Nissa et c'est de la pluie qui nous attend du sud au nord-est.
Exactement, des Pyrénées jusqu'à la Bourgogne, on a une bande pluvieuse qui va stagner tout au long de la journée. Cette perturbation n'avance pas, donc tout au long de la journée, vous aurez de la pluie dans ce secteur. Mais attention aussi au Languedoc-Roussillon, du côté des Cévennes et de l'Hérault, nous avons aujourd'hui une journée très pluvieuse encore avec localement des pluies très soutenues. Alors c'est une très bonne nouvelle pour les Pyrénées-Orientales qui ont besoin de cette pluie, mais c'est une nouvelle journée de pluie qui s'ajoute à toutes les journées de pluie que nous avons eues depuis le 1er octobre dernier, donc 7 mois consécutifs de pluie assez important. Alors, cette zone est pluvieuse, des Pyrénées jusqu'à la Bourgogne. Mais il y a à l'arrière quand même de belles éclaircies sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, la Normandie, le centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, cet après-midi de la Vendée au Pays Basque. Là aussi, ça sera plutôt lumineux. À l'avant de l'Alsace aux Alpes, c'est un ciel couvert mais un temps calme. Et puis cet après-midi, en deuxième partie de journée, on a des nuages qui arrivent, de gros nuages sur le Finistère, ce qui annonce l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Attention aussi aux remontées de poussière du sable du Sahara. Ah, on en parlait avec Angoune. Ce sable du Sahara pourra jaunir un petit peu vos voitures sur la façade est du pays. Les températures, bah tiens, hier à 17h, alors le contraste il est quand même flagrant. Hier à 17h, il faisait 11 degrés à Besançon, c'est 7 degrés en dessous de la moyenne. Pendant le même temps, il faisait 29 à Ajaccio, c'est 9 degrés de plus. Et aujourd'hui, on aura 12 à 26 degrés, c'est une fois de plus à Ajaccio qui fera le plus chaud.
Merci Anissa Dadi, bon réveil avec Europe 1, 6h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Ombline Roche.
Un adolescent de 15 ans mortellement poignardé à Châteauroux. Son agresseur présumé est un jeune d'origine afghane. À 15 ans, lui aussi, déjà suspecté dans d'autres affaires. Il est placé en garde à vue avec sa mère. Les universités vont-elles emboîter le pas à Sciences Po Paris? Dans les facs, on multiplie les conférences afin d'informer au mieux les étudiants et d'éviter l'embrasement. Reportage Europe 1 à Strasbourg dans un instant. Dans ce journal également, le malaise de l'hôpital où les accusations d'agressions sexistes et sexuelles se multiplient. Vous allez l'entendre, il n'y a pas que le personnel médical qui subit des violences. Et puis Europe 1, partenaire de l'exposition Portrait d'Amérique, consacrée au photographe André Serrano, au musée Mayol. C'est un regard sévère sur les États-Unis d'hier et d'aujourd'hui. 6h30, le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Encore un destin brisé, des parents qui pleurent leur enfant. À Châteauroux hier, Mathis, 15 ans, a été poignardé à plusieurs reprises au dos et au thorax lors d'une bagarre dans son quartier Saint-Denis. Des blessures dont il ne s'est pas relevé. Son agresseur présumé a été interpellé, il a 15 ans, il est d'origine afghane et déjà soupçonné d'être impliqué dans d'autres affaires. Écoutez Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police.
Le présumé auteur du meurtre était déjà en garde à vue la semaine dernière pour une agression également au couteau. Il avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Les mineurs ont un régime spécifique, une excuse de minorité. Cette excuse de minorité, elle joue pleinement. Elle a été utilisée par le magistrat qui a libéré ce jeune et qui l'a placé sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'il aurait pu le mettre dans un centre éducatif renforcé en attendant ou l'écarter du secteur? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser et des réponses doivent être apportées.
Éric Henry au micro Europe 1 de Martin Lange. À 8h, l'ancien magistrat Georges Fenech sera avec nous sur Europe 1 pour tenter de décrypter cette affaire. Le maire de Châteauroux, Gilles Avroux, dénonce un ensauvagement de la société. Il appelle à une justice intransigeante et d'une sévérité extrême, alors que Gabriel Attal doit recevoir cet après-midi les chefs de parti pour évoquer cette violence des mineurs.
Dans l'actualité internationale, l'espoir d'une nouvelle trêve à Gaza.
Oui, près de 7 mois après le début de la guerre, une délégation du Hamas doit donner aujourd'hui sa réponse lors d'une réunion au Caire avec les négociateurs égyptiens et qataris. Hier, le groupe terroriste palestinien a assuré n'avoir, je cite, « aucun problème majeur quant à la dernière proposition soumise par Israël pour libérer les otages et mettre en place un cessez-le-feu ».
Une guerre qui enflamme les universités américaines ainsi que Sciences Po Paris.
Bloquée la semaine dernière par des étudiants qui n'ont pas été sanctionnés aux grandes dames de la droite, hier, lors du grand rendez-vous Europe 1 CNews, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes, a demandé au gouvernement d'envisager un arrêt des subventions publiques de Sciences Po et de faire preuve de fermeté.
Car le risque de contagion existe, contagion à d'autres établissements universitaires.
Oui, à Strasbourg, la direction de l'université tente d'ailleurs de tuer toute manifestation dans l'œuf en faisant preuve de pédagogie. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Tatiana Geiselman.
Colons un jour, colons toujours, mort à Israël, Palestine vivra. Dès qu'ils apparaissent sur les murs de la fac, Michel Deneken, le président de l'université, fait effacer les messages de haine envers Israël.
Il y a un acharnement sur Israël particulier. On n'a jamais dit mort à la Chine, mort à la Russie, même pas mort à la Russie. Donc les laisser, ça banalise la parole violente et c'est un cache-sexe de l'antisémitisme.
Et c'est bien là la grande crainte des universités, que le conflit amplifie les attaques envers les étudiants juifs, alors que 90% d'entre eux disent déjà être victimes de blagues antisémites et qu'un tiers cache leur appartenance religieuse par peur des répercussions.
Nous avons mis par exemple en place une hotline où on demande aux étudiants de nous faire remonter les faits, gestes, paroles dont ils sont soit victimes, soit témoins. Et il est vrai qu'on en a.
Pour autant, Michel Deneken tempère.
Notre campus n'est pas à feu et à sang. Beaucoup de nos étudiants ne se mobilisent pas pour cette cause-là parce qu'ils comprennent qu'il y a une récupération politique derrière.
Raison pour laquelle ils souhaitent continuer d'organiser des débats sur le sujet pour éduquer les jeunes et éviter toute instrumentalisation. Strasbourg, Tatiana Geiselman, Europe 1.
À 7 dans l'Hérault, le choc après la découverte hier d'inscriptions nazies sur le monument aux martyrs de la Résistance.
Des croix gammées et un Heil Hitler constaté par la police qui a ouvert une enquête. En novembre dernier, déjà un tag SS avait été tracé sur une plaque du monument. C'est une insulte aux descendants de déportés, a déploré le préfet de l'Hérault sur X.
Europe 1, 6h34, les représentants des personnels médicaux hospitaliers vont être reçus aujourd'hui au ministère de la Santé.
Oui, le ministre Frédéric Valletoux veut mettre fin aux violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. La vague MeToo déclenchée par les accusations de l'infectiologue Karine Lacombe contre l'urgentiste Patrick Pelloux ont mis au jour des dizaines de témoignages des médecins, infirmières, aides-soignantes qui confient être la cible de prédateurs au sein même de l'hôpital. Et c'est aussi le cas des femmes de ménage, comme le montre ce témoignage recueilli par Charles Louis.
Au tout début, je pensais que l'hôpital était un lieu sain.
Aurélie a depuis déchanté. Après un job d'été de 3 mois en tant que femme de ménage dans un hôpital du sud de la France, la faute à un cadre infirmier.
T'es bonne, j'aimerais bien te faire l'amour. Vraiment un connard et un vicieux.
Un comportement qui, au fil des semaines, est allé en s'aggravant.
Il essayait de m'embrasser, il essayait de me mettre dans une pièce pour pouvoir faire des choses avec moi. J'avais 18 ans, il en avait 40.
Un ascendant dont cet homme était évidemment conscient.
J'avais besoin de travailler, j'avais besoin d'argent. Et vu qu'il est, cadre, il se sent carrément plus supérieur. Et j'ai l'impression que nous, les femmes, en fait, on est...
Pour ne rien arranger, une omerta régnait dans cet hôpital.
J'ai dit, écoutez, c'est pas normal que je me fasse dire des choses comme ça. Mais là, les collègues de l'hôpital, ils s'en foutaient, en fait. C'est pas normal, en tant que femme, de se dire, on n'est pas entendu.
Aurélie, qui, face à ce manque de soutien et l'attitude de ce supérieur, a préféré définitivement quitter l'hôpital et renoncer à sa principale vocation de l'époque, les études d'infirmière.
Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
6h36 sur Europe 1, à 7 mois de l'élection présidentielle américaine, on peut voir une exposition qui en dit long sur les différents visages des États-Unis.
Andrés Serrano, portrait d'Amérique, exposition en partenariat avec Europe 1 qui s'ouvre demain au musée Mayol à Paris. Une rétrospective d'Andrés Serrano, photographe américain des années 90, infiltré du Ku Klux Klan aux morgues, des communautés amérindiennes aux sans-abri. Un portrait sévère de l'Amérique, toujours d'actualité, Marie Jiquel.
Le drapeau des États-Unis troué ou taché de sang, des membres du Ku Klux Klan, des portraits de stars comme Snoop Dogg à côté de ceux de SDF. Par ses mises en scène parfois dérangeantes, Andrés Serrano, qui se définit comme un artiste avec un objectif, expose sa propre vision d'une Amérique déchirée.
Je me souviens quand j'étais enfant à l'école, on me disait « les États-Unis sont les gendarmes du monde ». Et aujourd'hui, plus personne aux États-Unis ou dans le monde entier ne pense cela.
Au centre du parcours, un bureau regroupant une drôle de collection, tous les objets estampillés Donald Trump, briquets, peluches, photos dédicacées, qui ont élevé le mania de l'immobilier au rang d'idole, bien avant qu'il ne devienne président.
Quand on voit tous ces objets, on comprend que Donald Trump a beaucoup joué avec les médias. Et eux lui ont donné tellement d'importance qu'il en est devenu président. Finalement, le gagnant est celui qui fait le plus parler de lui, en bien ou en mal.
Un apaisement dans ce parcours troublant, ces reproductions photos de la Vierge et l'Enfant.
Marie Jiquel.
Merci Fanny Marceau. Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 6h37.
À 7h moins le quart, vous allez retrouver les initiatives positives de Jean Z. Ce matin, des disques vinyles écolo. Le bio-vinyle est fabriqué à partir de PVC d'origine biologique. Jean vous expliquera dans un instant votre interview éco, Alexandre Lemaire.
Oui, on va parler sécurité au travail. Il y a beaucoup à faire en France. 2 morts par jour au travail. Nous sommes parmi les plus mauvais élèves en Europe. Le bâtiment en première ligne. J'accueille dans un instant Nicolas Godet, le directeur général de Point Pays. Lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation des artisans. A tout de suite sur Europe 1.
5h, 7h.
Europe 1, bonjour.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?» répondent « oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là c'est… » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat de 2 packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le 3e est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés.
Europe 1. 7h20 sur Europe 1. Excellent réveil, très bon début de semaine. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bonjour chers auditeurs.
À la une d'Europe 1 matin, Dimitri, à partir de 7h.
On va parler de Sciences Po, ou devrais-je dire Columbia sur scène, parce qu'en ce moment, rue Saint-Guillaume, on fait tout comme à New York, hein, comme à Columbia University, les drapeaux palestiniens, les kéfiers, les banderoles anti-israéliennes. Est-ce que vous avez vu vendredi les étudiants se peindre les mains en rouge et les brandir comme ça fièrement en appelant au cessez-le-feu ? Le geste des mains rouges, c'est une référence au massacre de 2 Israéliens à Ramallah en l'an 2000. On a vu ça vendredi à Sciences Po. Alors, c'est pas du tout un appel au cessez-le-feu, c'est le symbole d'un carnage. Tous les Israéliens savent ça. Mais qui a jugé bon de reproduire ça, ce symbole-là, à Sciences Po vendredi ? Mais qui ? Alors, les étudiants disent non, non, mais on savait pas. Bon, voilà. Sciences Po, c'était la fabrique des élites. On envoyait son fils, sa fille à Sciences Po, il n'y avait pas mieux. Mais qui, aujourd'hui, a envie d'y envoyer ses enfants ? Enfin, Sciences Po a été créé en 1870 pour répondre à la crise politique et morale dans laquelle la France se trouvait plongée après la défaite. Et ben aujourd'hui, la défaite, c'est Sciences Po, c'est la défaite de la pensée, c'est la défaite du pouvoir académique qui est complètement débordé. Et le vrai patron de Sciences Po aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et tous ces jeunes, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on va les retrouver plus tard, ces étudiants en sédition qui font des masters Human Rights, des masters Droits de l'Homme. On va les retrouver aux manettes du pays dans quelques années. On va en parler ce matin sur Europe 1.
À tout à l'heure, Dimitri.
L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent.
Europe 1, bonjour, 5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 6h41.
C'était ce dimanche la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Les causes d'accidents professionnels, elles sont nombreuses. Selon des chiffres de 2021, la France a un taux d'accidents mortels au travail de 3,3 pour 100 000 employés, ce qui nous place bien au-delà de la moyenne de l'Union européenne.
Votre invité ce matin sur Europe 1, pour en parler, Alexandre, il s'agit de Nicolas Godet, directeur général de Point P, distributeur de matériaux de construction et de produits du bâtiment.
Bonjour Nicolas Godet.
Bonjour.
Chaque jour, en moyenne en France, deux personnes perdent la vie dans un accident dans le cadre de leur travail. On a un problème en France avec les accidents professionnels ?
Vous l'avez dit, il y a énormément d'accidentologie. Je voudrais revenir sur le fait que la sécurité au travail, c'est une priorité absolue, mais c'est d'abord la première des conditions de travail. C'est la première des conditions de travail, c'est une valeur qui est absolue, qui doit être sans compromis, qui doit être cardinale. Et donc le regard sur la sécurité, il doit être omniprésent. Et on a cette accidentologie, le gouvernement en a parlé récemment, avec une belle campagne de sécurité qui frappe tous les secteurs. Et le secteur où je suis, le secteur du bâtiment, est particulièrement exposé, malheureusement.
Alors justement, oui, effectivement, vous êtes en lien étroit avec les artisans du bâtiment. Point P, c'est 1000 points de vente, je crois, dans toute la France. Vous avez des dizaines de milliers d'artisans parmi vos clients, artisans du bâtiment, de la construction. Ça représente quoi, les accidents du travail pour ce secteur ? On imagine qu'on a une surreprésentation compte tenu des risques.
Vous l'avez dit, on est hyper proche en étant partout sur le territoire, mais on est surtout hyper proche en étant le troisième lieu de vie des artisans. C'est comme ça qu'on se voit. Les artisans viennent tous les jours chez Point P. On est en train d'ouvrir les agences maintenant. On va prendre le café chez Point P. On va acheter des matériaux de construction, mais surtout, on va parler, on va se réunir. Et ce moment de convivialité, il est important pour toucher des sujets qui sont clés comme la sécurité.
Alors, justement, vous revendiquez la sécurité comme votre première priorité, Nicolas Godet. Vous lancez aujourd'hui même une campagne de prévention contre les accidents du travail. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, déjà, on revient sur le fait que le bâtiment est plus exposé. On a un accident dans le bâtiment toutes les deux minutes. Il y a un mort par jour dans le bâtiment. Et donc, pour attirer sur cette campagne, on a fait une campagne qui est graphique, qui impacte, parce que les campagnes qui ne seraient pas impactantes ne feraient pas leur effet. Donc, d'abord, elle est visuelle. On reprend l'esprit de la bande dessinée avec une inspiration type Harakiri, fluide glacial. Et l'idée, c'est que cette campagne, avec ce fond impactant, elle soit portée par les hommes, avec ses t-shirts, ou portée directement sur les outils.
Alors voilà, vous avez tout à porter avec vous, c'est très très visuel, effectivement. Vous parliez de l'esprit BD, on le voit effectivement sur les t-shirts, les motifs. Vous l'avez voulu dans un esprit décalé, un petit peu cette campagne, pour dédramatiser.
C'est pas tant pour dédramatiser que pour avoir un impact. Vous savez, dans le bâtiment, il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas le français. Et c'est important que cette campagne, elle parle à tous, qu'elle soit visuelle, et les campagnes institutionnelles ne marquent pas. Donc on veut quelque chose qui soit impactant, avec des messages. Typiquement, sur cette masse, il y aura gravé niveau sécurité, arrêtez d'être à la masse, mettez des chaussures de sécurité. Sur nos scies, on va graver la sécurité, vous n'y couperez pas, mettez des gants de sécurité, bon, etc.
Les petits jeux de mots à chaque fois.
Exactement. Histoire que ça ait un impact.
Bon, alors ça c'est un kit en fait, que vous avez apporté avec vous. On a la masse effectivement, la scie, et puis le disque diamant.
Exactement.
Qu'on retrouve dans une mallette.
Alors, qu'on retrouvera sur nos outillages, on va industrialiser ce process, donc ça sera surtout nos outils.
C'est-à-dire que tous les outils que vous allez mettre en vente chez Point P porteront ces messages de prévention.
On va commencer avec trois outils qui sont à notre marque, la marque Novipro. On va industrialiser ce gravage, et puis on espère faire un effet d'entraînement pour que cette inspiration sécurité, on la retrouve beaucoup plus large que chez nous.
Bon, campagne d'affichage également dans toutes vos agences.
Dès ce matin.
Et vous, ça veut dire quoi en fait ? Vous ressentez, Nicolas Godet, le besoin de sensibiliser davantage les artisans aux risques professionnels sur les chantiers ? Vous ressentez ce besoin ?
On ressent ce besoin parce que l'accident, il vient du fait qu'on répète 1000 fois le même geste, on ne fait plus attention, et puis c'est la 1000e fois qu'on fait un accident. Encore une fois, un accident toutes les deux minutes, c'est quand même très très fréquent, et donc il est absolument clé pour nous de lever le regard. Et en fait, oui, en ayant sur son collègue un message sur le t-shirt ou sur l'outil, on pensera à faire attention à cette
sécurité. Je reviens quand même sur ce chiffre. Deux personnes perdent la vie dans un accident dans le cadre de leur travail chaque jour en moyenne en France. Pourquoi ce chiffre ? Est-ce que c'est un manque de sensibilisation, justement ? Est-ce que c'est le rythme de travail imposé au quotidien ? Alors, pour ce qui vous concerne, le monde des artisans sur les chantiers de construction, est-ce que c'est tout ça à la fois ?
Nous, on pense au manque de sensibilisation, au manque de prévention et à l'habitude. Derrière ces métiers, il y a des gens qui se lèvent très tôt et qui portent des charges qui sont lourdes, pondéreuses, dangereuses, quelquefois 13 mètres de longueur, quelquefois plusieurs tonnes sur des matériaux. Important de faire attention quand on véhicule des matériaux qui sont à risque.
À chaque métier ses équipements de protection individuelle, Nicolas Godet. Là encore, ils ne sont pas toujours obligatoires, ces équipements. On est encore trop souvent au stade de la simple recommandation.
Chez nous, chez Point P, évidemment, les équipements de protection individuelle sont obligatoires. Tout le monde les porte, les chaussures, le gilet orange, évidemment, les gants. Après, chacun est libre dans son métier. Il faudrait les porter, mais je ne pense pas que ça soit obligatoire. Donc, il y a une campagne de sensibilisation pour que les artisans sentent l'intérêt, selon nous, de s'équiper, de se protéger.
Mmh. Alors, vous en avez identifié quelques-unes, mais les principales causes d'accidents professionnels dans le secteur du bâtiment, de la construction, qui reviennent, qui sont responsables d'accidents.
Vous les avez... Je dirais l'habitude, et c'est pour ça qu'on veut créer ce réflexe sécurité.
L'habitude de quoi qu'il s'agisse.
L'habitude d'avoir fait mille fois le même geste, l'habitude d'avoir découpé mille fois sans gants, l'habitude d'avoir fait de connaître son geste. Et c'est quand on a l'habitude, c'est comme au volant, c'est quand on a l'habitude que l'accident arrive, et donc on veut lutter contre l'habitude.
Bon, ça, ce sont pour vos clients. Est-ce que vous êtes parvenu chez Point P à faire baisser justement le taux d'accidents professionnels? Vous avez 12 000 salariés quasiment, je crois.
Oui, 11 000.
Oui.
Alors, la sécurité est notre priorité numéro un. On n'atteindra pas le zéro absolu. On a des statistiques qui sont relativement bonnes, mais les statistiques sont trompeuses. Il y a un accident, 1,5 tous les millions d'heures travaillées chez Point P. La moyenne du secteur, c'est 32. Et pour autant, c'est toujours beaucoup trop. Et on ne sera jamais satisfait avec l'accidentologie que nous avons.
Et vous lancez donc, je le rappelle, aujourd'hui, dans vos 1000 points de vente, cette campagne de sensibilisation qui va s'afficher sur les t-shirts et sur vos outils. On aura ce rappel à chaque fois de prudence. Avec des petits jeux de mots, on pourra découvrir ça effectivement dans les enseignes Point P. Merci Nicolas Godet.
Merci à vous
tous. Directeur général de Point P ce matin sur Europe 1. Merci à vous.
I'm free. C'était l'invité éco avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024. I'm free.
Europe 1, bonjour, 5h-7h à 6h48, les initiatives positives.
Bonjour Jean Zeda.
Bonjour Alexandre, bonjour Romain.
Bonjour.
Ce matin, les disques vinyles se mettent au vert.
Effectivement, il faut dire que d'une part, le succès du disque vinyle, son renouveau, n'est plus un truc de bobo des villes ou des champs. En chiffre d'affaires, en France, le CD et le vinyle sont à égalité. En 2023, près de 100 millions d'euros chacun. Alors on ne peut plus parler de niche ou de secteur en marge. Le vinyle, ça prend de la place dans tous les sens du terme. Et son empreinte écologique est loin d'être négligeable puisqu'il est fabriqué à base de PVC, c'est-à-dire un plastique dérivé du pétrole dont la fabrication est polluante, mais quelques fabricants tentent de changer la donne.
Alors, en proposant quoi concrètement ?
De se passer du PVC. Alors, par exemple, le fabricant allemand de disques vinyle optimal a lancé il y a quelques mois une nouvelle technologie innovante baptisée le biovinyle. Biovinyle qui est fabriqué à partir de PVC d'origine biologique. Le pétrole ici est remplacé par de l'huile de cuisson usagée ou gaz résiduaires industriels. Oui, désolé. Oui, mais les odeurs n'y sont pas.
Ça ne font pas à la lecture.
Non, ça ne font pas à la lecture. Même après plusieurs lectures rapides en 45 tour, ça marche toujours très bien. Qualité identique. De plus, l'ensemble du processus de fabrication du biovinyle est soumis à une certification garantissant une application dans l'économie circulaire. On a besoin de transparence de ce côté-là. Le premier disque pressé en biovinyle est celui de la bande originale d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo français, ça s'appelle un très joli jeu sous-marin d'ailleurs, intitulé Under the Waves, dont le format vinyle a été produit sans plastique ni pétrole. Et pourtant, la finition n'a rien à envier à un vinyle à l'ancienne.
Bon, alors d'autres fabricants, eux, se sont tournés vers la canne à sucre.
Oui, après avoir fait chauffer l'huile, on va le manger. On va manger le vinyle, vous allez voir. Le procédé s'appelle EvoVinyl, des disques vinyles végétaux compostables à base de canne à sucre qui forment un bioplastique qui peut se substituer directement au vinyle classique dans les usines de pressage. L'invention, on la doit à la société anglaise Evolution Music. Il y a un côté pratique, si le disque ne vous plaît pas, ça peut partir directement au compostage. Voilà,
c'est
un beau geste. Ce procédé permet également meilleure gestion des stocks d'invendus. Les maisons disques n'ont pas envie d'avoir ces stocks, ça coûte beaucoup trop cher. Alors ici, c'est du biodégradable, on a moins de soucis. Son autre avantage, c'est que son utilisation nécessite moins d'électricité statique. Vous savez, cette électricité-là, quand les disques tournent, qui attire beaucoup la poussière et qui énerve beaucoup les mélomanes.
Bon, alors dites-moi, Jean, la qualité d'écoute dans tout ça?
Alors moi, je n'ai testé que le biovinyle, j'avoue, et vos vinyles, je n'ai pas pu le tester. C'est pareil, ça marche très très bien. La qualité sonore est vraiment au rendez-vous. L'autre question, c'est, est-ce que ça coûte moins cher? Eh bien, pas du tout. Voilà. Et pourtant, il serait de bon ton quand même, hélas, de faire rimer écologie avec bas prix, en tout cas prix raisonnable. C'est difficile à trouver dans les disques vinyles, le prix raisonnable.
Dans le monde du vinyle, oui, ça n'existe que peu.
C'est ça, voilà. En tout cas, ce verdissement de la filière du disque vinyle ne fait que débuter.
Bon, l'histoire ne dit pas si la tenue dans le temps est la même.
La tenue dans le temps est la même.
Et la résistance au gondolage, parce que c'est fragile, ces petites choses.
Non, ça dure visiblement plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, effectivement, le disque vinyle classique en PVC, il tient très longtemps.
Si vous en avez encore
dans les greniers, ça marche très bien. Mais là, il est prévu, mais enfin, on n'est pas à date. hein, c'est-à-dire que c'est des procédés qui ont été inventés il y a un ou deux ans, donc on verra dans 20 ou 30 ans,
un petit peu de recul, hein, voilà,
on en reparle ici même.
D'accord. En tout cas, voilà une autre bonne nouvelle, le bio-vinyle,
ouais,
les initiatives positives. Merci Jean Z.
Merci à vous.
À demain sur Europe 1.
C'était Initiative Positive avec General IPME Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables.
Europe 1 Bonjour, 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bon réveil avec Europe 1, 7h-10, le journal permanent. Fanny Marceau.
Première nuit en garde à vue pour un adolescent de 15 ans d'origine afghane, soupçonné d'avoir mortellement poignardé le jeune Matisse, 15 ans lui aussi, hier lors d'une bagarre à Châteauroux. Le jeune homme, déjà défavorablement connu des forces de l'ordre, est soupçonné d'être impliqué dans d'autres affaires. Il était déjà en garde à vue la semaine dernière. Le gouvernement dépose plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique. Le leader insoumis avait comparé le président de l'université de Lille à un nazi alors qu'il venait d'interdire sa conférence sur la Palestine. L'espoir d'une nouvelle trêve à Gaza aujourd'hui. Le Hamas doit donner sa réponse lors d'une réunion au Caire avec les négociateurs égyptiens et qataris. Le groupe terroriste palestinien a assuré hier n'avoir, je cite, aucun problème majeur quant à la dernière proposition soumise par Israël pour libérer des otages et mettre en place un cessez-le-feu. Et puis de bon augure à 3 mois des Jeux Olympiques, l'équipe de France mixte de judo championne d'Europe, victoire hier 4-0 face à la tenante du titre, la Géorgie. Il s'agit du second titre des Français après celui de 2022.
Merci Fanny Marceau.
Et dans un instant sur Europe 1, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1, Alexandre.
Et nous irons en particulier au Brésil qui révise sa constitution pour criminaliser la possession et le transport de drogue. A tout de suite.
Il est 6h52.
Europe 1. Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Florian Vilco est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes concepteur de pneus chez Michelin et votre équipe a mis au point une innovation absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr. Ce qu'on conçoit aujourd'hui chez Michelin, c'est une roue qui s'adapte aux conditions extrêmes du sol et de l'environnement lunaire.
Ah oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Eh bien, ça signifie que cette roue, elle résiste aux terrains les plus abrasifs. Et elle peut supporter des variations de température qui vont de moins 240 jusqu'à plus 100 degrés. Mmh. En fait, c'est une roue qui est increvable et qui repousse les limites de la science.
Et ça, c'est un progrès aussi pour nos voitures ?
Bien sûr. Ce que l'on fait pour la Lune nous sert à imaginer les pneus de demain sur Terre.
Merci beaucoup, Florian Vilco.
Merci.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Europe 1, il est 7h05.
La revue de presse internationale, nous partons d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez.
Bonjour.
De quoi parlent les journaux chez vous au Brésil ce matin ?
Du Sénat qui a approuvé le projet de loi de révision de la Constitution criminalisant la possession et le transport de drogue, et ce, quelle qu'en soit la quantité. Le texte, précise le site G1, doit encore être examiné par la Chambre des députés, mais ce vote est d'abord une réaction au débat mené actuellement au sein de la Cour suprême fédérale, estime la Folha de São Paulo. Cette dernière souhaite en effet établir une distinction entre une quantité qui reste à déterminer pour la consommation personnelle de cannabis et le trafic de drogue, souligne Poder 360. Pour l'Estado di São Paulo, ce vote du Sénat souligne surtout les tensions croissantes entre le pouvoir législatif et la Cour suprême, le premier accusant la seconde d'empiéter sur ses prérogatives.
Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. Vous êtes à Alger pour Europe 1. De quoi traitent les journaux algériens ?
Eh bien, d'une usine de lait en poudre à 3,5 milliards de dollars. Les Algériens ont fait appel aux Qataris pour réaliser ce méga projet, nous dit l'expression. Des Qataris pour pallier la faible production de lait en Algérie. L'idée semble invraisemblable. Et pourtant, explique le Soir d'Algérie, le Qatar a réussi l'exploit de devenir pratiquement autonome au lait à travers sa société Baladna. Spécialisée dans la mise en place d'écosystèmes adaptés dans les régions désertiques, cette firme promet de réaliser le même exploit dans le sud de l'Algérie, connu pour son climat aride. En tout cas, une fois concrétisé, ce projet permettra de produire localement 50% des besoins algériens en poudre de lait. Algérie Eco rappelle qu'avec 750 millions d'euros d'importation de lait, l'Algérie est le deuxième plus grand importateur mondial de ce produit, juste derrière la Chine.
On part enfin au Kenya, retrouver la correspondante d'Europe 1, Alba Dufort. De quoi est-il question dans les journaux du pays ?
Des faux diplômes de certains fonctionnaires, il serait plus de 2000 concernés selon le président Ruto, cité par le quotidien The Nation. L'on y apprend que le chef d'État demande aux coupables de rembourser les salaires publics perçus et à la justice de faire son travail. La chaîne Citizen TV rapporte aussi les propos du président. Les faux diplômes seraient, selon lui, en partie responsables d'une dégradation des services publics par manque de compétences. En réaction sur le plateau, un élu de l'opposition se questionne sur la façon dont ces fonctionnaires sont embauchés, criant à la corruption. Le site Kenyans.co dénonce une grande escroquerie et espère que les salaires remboursés pourront aller vers des projets sociaux. Enfin, un éditorialiste dans le People Daily s'interroge : qu'est-ce que cette affaire de faux diplômes dit des valeurs kenyanes ?
Merci Alba Dufort, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.
La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Europe 1, il est 6h57.
À l'heure de retrouver Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Blin Roche, bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue chers auditeurs. L'actualité va nous emmener ce matin à Châteauroux dans l'Indre. Samedi après-midi, Matisse, 15 ans, fils de restaurateur, est mort lardé de coups de couteau par un mineur afghan de son âge. Un jeune déjà mis en examen pour vol aggravé avec violence. Alors, bon, voilà des ingrédients que l'on ne connaît que trop bien. Le couteau, la violence d'un mineur qui organisait des guet-apens via Internet avec sa bande. La délinquance en récidive, mais épargnée de toute fermeté par la justice en raison de l'âge. On va en parler ce matin sur Europe 1 avec l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Ce matin, ce sera Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, face à Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h10. On parlera aussi ce matin de MeToo qui débarque à l'hôpital. Il aura fallu que Paris Match donne il y a 3 semaines le nom de l'urgentiste Patrick Peloux pour que la parole se libère et les témoignages pleuvent. En fait, ils étaient là depuis 10 ans, il n'y avait qu'à les écouter. On en parlera dans 10 minutes avec l'une des premières à en avoir parlé, le docteur Valérie Oslender. Et puis, on évoquera aussi la situation à Sciences Po, où certes, le campus a été évacué vendredi suite à un accord entre la direction et les manifestants pro-palestiniens, mais alors ça laisse tout de même quelques traces, un arrière-goût, une certaine amertume dans la bouche de certains, notamment d'Alexis Brézet. Votre éditorialiste politique tout à l'heure, ce sera sur les coups de 8h-10. Voilà pour le programme. Alexandre Omblin, on vous souhaite un bon repos.
Merci.
Et rendez-vous 5h pour le coup d'envoi d'Europe 1. Bonjour. Anissa, la météo, le temps, nouvelle journée pluvieuse ce lundi.
Vous savez qu'on est en train de battre un record, hein, puisque nous venons de passer les 7 mois les plus pluvieux de l'histoire après 2000-2001 sur les 65 dernières années avec 750 mm de pluie. Un record donc. Alors normalement, c'est du 1er octobre au 30 avril, donc il reste encore aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, il va encore pleuvoir des Pyrénées jusqu'au Grand Est, des Pyrénées à la Bourgogne, en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette perturbation n'évolue pas, elle stagne sur cet endroit-là toute la journée, avec attention des pluies très soutenues sur le Languedoc-Roussillon et sur l'Hérault en particulier. Du côté des Cévennes, on a de très fortes pluies aujourd'hui. À l'arrière de cette perturbation, sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, le centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, on aura de belles éclaircies. Profitez-en, hein, ça sera la seule journée. Donc profitez de ces éclaircies sur ces régions-là. Et puis à l'avant, de la perturbation de l'Alsace aux Alpes. C'est calme avec un ciel très couvert. C'est en Corse que la journée sera la plus agréable aujourd'hui.